le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Un pas de côté. Il est parfois utile et agréable de faire un pas de côté et d'explorer sa discipline à partir d'un autre endroit. Le Lab U propose un pas de côté, l'interview d'un enseignant-chercheur sur un ouvrage qui ne fait pas partie de sa discipline, mais qui l'éclaire. Aujourd'hui, Ronan Robert, professeur agrégé d'anglais à l'UBO, directeur du département AES, présente La Servante écarlate, un roman de Margaret Atwood, publié en 1985, disponible chez Robert Laffont, 2021, avec une nouvelle traduction de Michel Albaret Match. Bonjour Ronan Robert, pourriez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour Hervé. Donc je suis Ronan Robert, effectivement, professeur d'anglais, professeur agrégé à l'UBO. J'enseigne auprès de spécialistes d'autres disciplines qui sont généralement juristes ou économistes.
Vous enseignez l'anglais, oui.
Et j'enseigne l'anglais auprès d'eux. Je suis donc spécialiste de littérature et de linguistique anglo-saxonne. Et dans le même temps, j'ai une activité parallèle qui est celle de l'écriture.
Oui.
C'est une chose qui m'a toujours motivé aussi depuis toujours, avant même de me diriger vers l'enseignement. Donc ce sont deux activités que je mène de front.
Il faut le dire, vous avez déjà publié. Oui.
Oui, alors dans un premier temps, j'écrivais de la poésie pendant très longtemps, mais ne me sentant pas suffisamment mature, je la gardais pour moi, j'en jetais beaucoup, j'en ai gardé un petit peu, ce qui est resté a priori pas mal. Mais j'avais publié donc trois romans. Et c'est voilà. Vrai que c'est quelque chose que maintenant j'assume pleinement et de plus en plus, le fait d'être écrivain.
Avec raison, j'en ai lu un qui m'a tenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, donc, quel ouvrage souhaitez-vous présenter ?
Alors, je vais présenter un roman canadien d'un écrivain qui est très connu. Hein. C'est un roman qui a quand même eu beaucoup de succès. Donc, c'est The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, qui était à l'origine professeur de littérature dans une université à Toronto, mais qui est très vite devenu écrivain et à part entière.
Vous pouvez traduire en français le titre ?
Oui, alors c'est La Servante écarlate. Je ne l'ai pas lu en français, donc du coup j'ai vraiment très peu de références. Mais oui,
on m'a essayé de faire l'émission en français.
Oui, oui, oui. Je citerai des passages en anglais sans doute, mais je traduirai toujours. Et The Handmaid's Tale, on perd quand même l'idée du tale. Donc c'est vraiment l'idée d'un conte. Donc on n'est pas donc on a un caractère sociologique, dystopique. Donc il y a sans doute un élément critique ou une vision critique du réel. Mais en même temps, on reste quand même sur l'idée de quelque chose qui reste fantasmé ou irréel tout de même. Donc c'est un conte.
D'accord. Ouais. Est-ce que pour commencer, déjà, on peut faire un résumé de l'histoire, qui est un peu longue, mais bon, voilà, un résumé.
Oui. Tout d'abord, il s'agit donc d'un roman qui rentrerait dans un cadre dystopique. L'intrigue se situe dans une monothéocratie totalitaire.
Monothéocratie, ça veut dire
En fait, c'est un caractère très religieux et on ne croit qu'en un seul Dieu.
Oui, d'accord.
Voilà. Mais alors, c'est très difficile de discerner de quelle religion il pourrait s'agir, puisqu'en fait, beaucoup de religions sont non officielles dans le roman, comme par exemple les baptistes, les Quakers. Les juifs sont envoyés, shipped away. Donc les islamistes, hein, donc du coup, sont aussi considérés comme la raison de tous les maux, de tous les torts. Et donc il y a pas mal de religions qui sont ostracisées, qui sont rejetées.
Oui, mais ça renvoie pas précisément à une religion bien identifiée, à un courant bien identifié.
Ouais. Non, c'est ça. Donc on sait qu'il y a une religion d'État officielle, mais on ne sait pas laquelle. Elle n'est pas spécifiée et elle n'est jamais définie. Et donc ça se passe dans un état qui s'appelle l'état de Gilead, qui en fait se situe aux États-Unis, mais c'est dans un proche avenir. On a des éléments de datation, mais en toute fin de roman, ce qui est assez en fait assez malin, puisque pendant toute la lecture, on a du mal à situer dans le temps cette société-là.
Oui, c'est volontaire,
Ouais. Et on a un congrès, en fait, un symposium en épilogue, qui nous date la période à la fin des années 90.
Et le congrès lui-même a lieu en 2050 ou
C'était même encore plus loin, j'avais dû le noter quelque part, en 2195.
Voilà, ouais, donc un congrès d'historiens se réunissent, parle comme on parle les historiens aujourd'hui.
C'est ça, et en fait qui date le témoignage qui leur est parvenu des late 20th century, donc la fin du 20e siècle. Donc la fin des années 90 a priori. Donc pour nous, c'est même dans le passé. Donc ce qui est décrit dans le roman, en fait, ne s'est pas réalisé, fort heureusement. Mais tout au long de la lecture, ça reste très d'actualité. Il y a une résonance qui est très très forte par rapport à des choses qui se passent maintenant. Moi, je l'ai lu il y a 20 ans, je l'ai relu depuis. Et c'est vrai que ça, la résonance me paraît toujours aussi forte. Et donc, si on parle du contexte...
La colonne vertébrale de l'histoire. Donc
oui, donc si je verrais ce roman, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais quand même comme rentrant dans une catégorie d'écoféminisme. En tout cas, je ne sais pas si ça serait accepté par l'auteur elle-même, mais en tout cas le caractère environnemental ou l'enjeu environnemental est présent dès le départ, puisqu'il y a donc un problème de pollution atmosphérique, l'eau, qui mène à en fait un problème de fertilité, un déficit de fertilité dans la société, ce qui fait que le principe de reconduction ou de, comment dirais-je, le fait de faire perdurer l'espèce devient une problématique essentielle.
Voilà, et ça change le statut de la femme.
Et voilà, tout à fait. Donc la seule finalité ou la seule fonction en fait de la femme devient la fonction de procréation. Ce qui fait que même les femmes en sont aliénées même de l'identité qui était la leur, c'est-à-dire que c'est... Elles n'existent plus, elles deviennent invisibles en quelque sorte, et leur seule fonction, c'est vraiment de procréer, et l'État, elles sont mises à disposition de l'État. D'ailleurs, l'héroïne nous dit « I am national resource now », donc elle devient une ressource nationale, et sa seule fonction, c'est de prolonger l'espèce, quoi qu'il en coûte. Et ça nie toute personnalité, et ça va à l'encontre, bien entendu, du bonheur individuel, et ça casse toutes les cellules familiales, mais c'est...
Oui, c'est un monde assez horrible. Enfin, il y a trois statuts de femmes, quand même. Il y a les femmes de ceux qui ont le pouvoir, il y a les martes, je sais pas trop ce que c'est des...
On a une société qui se constitue, et une certaine hiérarchie, en fait, qui s'instaure au sein de la gente féminine. Donc on a des femmes de très pauvres conditions et qui ne sont plus fertiles. Donc ces femmes-là, en fait, on les envoie dans les colonies. Donc ça nous ramène, on n'est plus vraiment en avant, mais on revient sans doute en arrière, là, pour le coup. On a aussi des femmes qui sont réduites à l'état domestique, les martyrs.
Et oui, martyrs.
En hébreu, c'était en fait les maîtresses de maison. Donc elle s'occupe de tout ce qui est vaisselle, repas, linge de maison. Voilà, ce sont des domestiques à proprement parler. Nous avons les maids ou housemaids, donc là qui sont affectés dans une famille haut placée avec un commander, donc qui est le commandant, qui est un haut dignitaire en fait ou un haut responsable du gouvernement, et son épouse qui est the wife.
Oui. Et le commander, il doit fertiliser la servante.
C'est ça.
D'où le titre servante écarlate, parce qu'elles sont habillées de rouge.
Donc son épouse, en fait, est stérile. Donc elle ne peut pas lui donner d'enfant. Et c'est donc on affecte dans la maisonnée, dans the household, en anglais. Et on a un jeu sémantique sur la maisonnée, parce que who holds the house, c'est bien le commander lui-même. Donc c'est lui qui tient la maison. Donc en fait tout est régi et organisé et contrôlé par l'homme. Les femmes ne sont là en fait que pour le décorum en quelque sorte, y compris son épouse à lui, the wife. On voit qu'elle est démunie, on lui retire tout pouvoir, alors qu'on sait que par le passé, Serena Joy, qui est son nom, elle était très présente même à la télévision, c'était une femme politique, mais elle était pour l'instauration de ce régime-là. Et une fois que le régime est instauré, presque malgré elle, en fait, elle sort du spectre médiatique et elle reste cantonnée à un rôle de décoration.
Et peut-être pour compléter le tableau, il y a une guerre. Enfin, il y a des foyers de guerre qui se passent.
Juste pour les caractères, les personnages féminins, c'est vrai qu'il y a toute une catégorie de personnes. On a aussi les aunts, qui sont donc les tantes.
Oui, ils sont terribles.
Voilà, qui forment, par la violence, hein, par un discours aussi religieux. Donc on a des références bibliques notamment, peut-être qu'on y reviendra.
Oui, à l'Ancien Testament.
Ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, qui explique d'ailleurs le titre aussi, Handmaid's Tale. Mais donc ces tantes-là, elles ont vraiment un pouvoir de contrôle sur les autres femmes. Et aunts are not sisters. Donc là, pour le coup, les tantes ne sont pas des sœurs. Donc on est très loin de l'idée de sororité. Parce qu'en fait, leur rôle, c'est même sans doute de bloquer toute éventualité ou toute possibilité même de sororité, en fin de compte. C'est le rôle qu'on peut voir chez les aunts.
Les servantes écarlates sont très, très isolées. Ouais.
Et les femmes qui ont le malheur de ne plus être fertiles, en fait, on les appelle des unwomen. Et les unwomen are shipped away to the colonies. Donc celles qui sont considérées, du coup, quand on parlait d'aliénation, c'est même la négation d'une identité, puisqu'elles ne sont même plus des femmes. Et oui. Puisqu'elles ne sont plus des femmes parce qu'incapables de procréer, on les envoie dans les colonies d'où personne n'est jamais revenu. Et là, notre héroïne, donc, qui s'appelle Offred, elle est fertile. Donc on a brisé sa cellule familiale parce qu'on sait qu'elle était en couple avec un homme qui était divorcé. Elle avait une petite fille, donc la petite fille lui a été prise. Donc elle est souvent, d'ailleurs les enfants étaient affectés aussi dans des familles plus élevées, donc upper classes. Et elle se retrouve, donc elle est affectée dans un premier temps, donc dans cette maisonnée-là. Et on sait que le système veut que dès lors qu'elles ont enfanté, on leur laisse un petit temps aussi pour s'occuper du bébé, mais ensuite elles sont affectées dans une nouvelle maisonnée, a new household, donc tenue par un autre commandant.
Bon, on ne va pas raconter tout le livre, on va peut-être faire un focus sur un chapitre, mais peut-être juste pour compléter le tableau, l'ambiance. Il y a de la violence un peu partout, il y a des pendus à l'entrée de la ville, c'est un sort qui est réservé par exemple aux homosexuels, aux divorcés, aux adultères, etc. Et puis à tout ce qui résiste. Hein.
C'est ça, oui. Et les médecins qui ont pratiqué l'avortement.
Oui aussi, oui.
Et y compris qui ont pratiqué l'avortement avant l'avènement de Gilead. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des peines rétroactives.
On va revenir sur cette notion de rétroaction en droit qui est très intéressante.
Tout à fait, puisqu'il y a une résonance très forte aussi dans l'actualité aujourd'hui. Effectivement, ces corps qui sont exposés au regard de tous, ça rappelle aussi à l'époque médiévale, jusqu'en 1660, en fait, sur London Bridge, comme la tête de William Wallace avait été exposée sur une pique, et la tête également d'un grand écrivain, qui est aussi un grand religieux, Thomas More, qui a écrit Utopia. Peut-être avec Margaret Atwood, je pense qu'il n'y a jamais de hasard non plus, dans les petits clins d'œil ou dans les références.
Et avez vous-même fait un clin d'œil dans votre histoire, l'Abeille Noire, qui à un moment est à Londres.
C'est exact.
Il y découvre.
C'est vrai, tout à fait.
Ses têtes fichées dans des pics.
C'est fait pour faire peur et on sait où on met les pieds, ou en tout cas on sait qu'on doit se tenir à carreau. Et c'est la fonction.
Oui.
C'est la fonction essentielle de des corps qui sont pendus en haut des murailles.
Donc on voit que c'est un ouvrage difficile qui nous plonge dans un peu dans l'horreur quand même. Moi je l'ai lu, pour vous interviewer, je l'ai lu et au début j'ai un peu regretté parce que l'univers est noir, mais en même temps on gagne énormément de choses à lire ce livre. Il y a beaucoup d'intérêt à lire ce livre. Et donc la question, pourquoi donc c'est quand même cet aspect un peu dur, pourquoi avoir choisi de présenter cet ouvrage?
Je vais rebondir sur ce que vous dites sur le fait que ce soit très dur à la lecture. Je n'ai pas du tout choisi, cette lecture n'a rien de contemplative, elle n'a rien de, on n'est pas sur le sentiment d'amour ou d'amitié, on est la quête du bonheur, on est très très loin, on est plutôt sur l'idée d'un éveil des consciences, d'une conscientisation, en fait, raising awareness, mais ça passe par, en fait on nous expose des faits, on y reviendra aussi, mais des faits qui en fin de compte n'ont rien d'ailleurs de totalement irrationnel, puisqu'il y a eu une sorte de condensé de choses qui se sont véritablement passées, tout a été concentré, et
oui,
synchronisé,
oui.
Mais du coup ça provoque en fait bien des choses chez le lecteur et on n'en ressort pas indemne. C'est ça qui explique aussi le choix qui a été le mien, puisque un pas de côté, l'idée c'était peut-être aussi de bousculer un petit peu, ou en tout cas de se poser des questions. Là, les questions qui sont posées sont à mon sens très pertinentes. On n'apporte pas réellement de réponse, si ce n'est soulever le principe de nécessité de vigilance. Et pour revenir au caractère désagréable du roman, tout à fait. On s'aperçoit qu'on a on a des petites remarques postmodernes, en fait. On a Margaret Atwood qui intervient, en fait, dans son écriture.
Oui, là, on parle de l'écriture. Bon, on peut passer, parce que j'avais deux questions. La une sur la dystopie, justement, et une sur l'écriture. On peut peut-être continuer sur la dystopie et parler après de l'écriture.
Oui, c'était juste pour l'excuse qu'elle donne, juste une petite citation. Elle dit « The sad and sordid, this limping and mutilated story »
because after all, I want you to hear it. So, en fait, elle s'excuse. I apologize for the sad and sordid, this limping and mutilated story. Elle s'excuse pour cette histoire triste et sordide.
Oui, en préface.
Cette histoire où il est, voilà, de mutilée et boiteuse. Donc, en fait, et I wish this story were different, more civilized. Donc, elle aurait aimé nous raconter une histoire plus civilisée, une autre histoire, mais elle considère qu'il est important de raconter cette histoire-là. Donc, elle s'en excuse. L'idée n'est pas de proposer un roman agréable. Pour le coup, c'est réussi.
Peut-être on peut ajouter un mot alors là sur le contexte de l'écriture de ce roman pour Margaret Atwood.
Oui, qui était, il a été publié en 1984.
Voilà.
Alors clin d'œil ou pas, je ne sais pas, mais effectivement, le roman de George Orwell, qui lui a été écrit en 48, mais publié en 49.
Et séjourné à Berlin, c'est ça qui me semble le moins important. À Berlin, donc elle allait faire des séjours en Berlin-Est, j'imagine. Et elle dit avoir pris conscience de la façon dont les gens développent un double langage quand ils sont à faire un système très autoritaire.
Tout à fait. Bah, c'était vraiment une période de forte tension aussi. Alors, il y a eu les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, avec boycott de tous les pays communistes.
Ah d'accord.
Et donc on était vraiment sur deux blocs qui ne se parlaient plus du tout. Donc les tensions étaient extrêmes. Et c'est vrai qu'on ne sortait plus, on ne sortait pas des pays... comme on le souhaitait, on avait très très peu d'échanges.
Oui, et ça a basculé pas longtemps après d'ailleurs, c'est assez étonnant. Hein.
Oui, et puis si on s'intéresse un peu à la période, il y avait aussi le conflit entre le Liban et Israël, et il y a eu un raid d'Israël avec pas mal de morts aussi, et la même année, on avait aussi une situation très tendue en Irlande, entre catholiques et protestants, avec Gerry Adams, qui était leader de l'IRA, qui a été blessé par balle, et un attentat contre Margaret Thatcher, qui a fait 5 morts. Donc, de part et d'autre,
oui,
un peu partout, on sentait des tensions entre religions, entre blocs politiques aussi, entre Ouest et Est. Donc, il y avait une situation de grosse crispation. Et puis, la réélection de Ronald Reagan aussi, avec comme vice-president ou running mate George Bush. Donc, c'était quand même...
La période était noire, c'est vrai.
Une période très conservatrice.
Et le bouquin s'en imprègne, ouais. Elle dit, avant d'arriver sur l'écriture, elle dit qu'elle a écrit une dystopie pour cela, elle dit s'être inspirée de plusieurs systèmes fascistes. On pourrait en dire deux, trois mots sur ce qu'elle prend ici et là pour construire son histoire et son ambiance.
Oui, c'est pas évident d'identifier des pays directement, parce que c'est vrai qu'elle a fait une sorte de compendium où elle a un peu additionné des choses qui s'étaient produites ici ou là.
C'est pas évident, mais en même temps, on rentre bien dans ce qui pourrait être... Enfin, on comprend bien comment on peut basculer dans un système dur. Hein.
Oui, à ce côté glissement-là, c'est vrai que ce serait intéressant d'y revenir en détail. Maintenant, la question pourrait porter sur les pays dont elle s'est inspirée.
Oui.
Bah, de toute façon, le régime nazi, c'est certain, avec les juifs qui sont envoyés au loin.
Oui.
Oui, sailed away. Après, sans doute aussi l'Iran.
Voilà, les théocraties.
Puisque, les théocraties. Effectivement, donc l'Iran, les femmes qui pouvaient sortir dehors, s'attabler aussi. Il y a des photos un peu iconiques, iconic pictures, dont on se souvient, des femmes qui pouvaient porter des jupes aussi. Et puis, voilà, du jour au lendemain, ça devient tout à fait impossible. Comme on le revit maintenant, d'ailleurs, en Afghanistan aussi, sous le régime des talibans. En fait, on ne peut plus... Les femmes, en tout cas, les filles, les femmes ne peuvent plus aller à l'école ou travailler. Et c'est ce qu'on ressent dans le roman. À un moment donné, d'ailleurs, l'héroïne qui s'appelait June, on apprend au bout d'un moment qu'elle s'appelait June, mais Offred, elle avait un métier et en 10 minutes, il a fallu qu'elle quitte son lieu de travail.
Ouais.
Elle avait 10 minutes pour quitter son lieu de travail parce que les femmes n'étaient plus autorisées à travailler. Les cartes bancaires non plus n'étaient plus opérationnelles.
Oui, ça c'est intéressant, comment le coup d'État s'est fait. Ouais.
Tout se ferme. En fait, toutes les portes se ferment et elle devient tributaire ou dépendante en fait, de son seul mari, compagnon à l'époque. Mais en plus, comme il n'était pas marié, du coup, elle n'était plus protégée du tout. Et il y avait une expression en anglais. « We were not each other's anymore. I was his. » Nous n'étions plus l'un à l'autre, mais en fait, j'étais devenue sienne. Donc, c'est l'épouse, tout d'un coup, ne dépend plus que du mari.
Oui.
Et du coup, on n'a plus ce sentiment amoureux. Malgré ce que ressentent chacune des deux personnes, en fait, ce sentiment amoureux-là, il est aliéné ou il est transformé par le poids de la société qui impose une décision brutale.
Ça, moi, ça m'a frappé dans le livre. Parce que ça fait référence aussi quand même à quelques pays communistes, au sens où la façon dont les servantes discutent entre elles sans montrer qu'elles discutent, en parlant de quelque chose et en parlant d'autre chose. Je sais qu'en Allemagne de l'Est, ça a été ressenti, oui. Ça a été expliqué, puisqu'une personne sur deux surveillait l'autre.
Bah oui, avec la Stasi, je pense que tout le monde était... Oui, tout le monde
était surveillé. Donc cette paranoïa générale qui ne tient pas des gens, mais du système, elle est très bien montrée là-dedans.
Et est-ce qu'on retrouve maintenant, ou toujours même en Chine, puisqu'on a un système de surveillance, donc reconnaissance faciale, puisque maintenant on peut dire d'identification des personnes, de notation des personnes, mais qui s'appelle en fait The Sharp Eyes Project. Donc c'est le projet des yeux ou des regards acérés. Et en fait, c'était un slogan communiste qui était « Masses have sharp eyes ». Ce sont les masses, en fait, qui ont des regards acérés.
Voilà, ouais,
donc chacun surveille l'autre. Et malheureusement, attention à cette défiance en fait mutuelle, chacun qui surveille l'autre, chacun a observé le premier pas qui ne sera pas nécessairement mauvais, mais qui sera mauvais selon les codes ou les règles de la société.
Oui. Il y a tous les rituels aussi, les phrases « il est bon », je ne sais plus quoi, enfin des phrases rituelles, qui moi m'a fait penser même à certaines ambiances de travail, où il y a... Je ne parle pas de l'UBO. Il y a un discours dominant qui est repris par tout le monde pour s'assurer de la neutralité
du management qui serait plutôt toxique. Quoi. Voilà. Une mauvaise forme de management. Mais c'est tout à fait vrai. En fait,
c'est
on aurait
du management possible.
Oui, tout à fait. C'est important. Il faut être vigilant. Et la sémantique, d'ailleurs, est vraiment une arme politique aussi ou un outil qui peut être...
Oui, et ça le montre très très bien en construisant son histoire là-dessus.
C'est vrai que des impératifs, des devises aussi, ou à force de répétition, sont des choses qui rentrent dans l'esprit de chacun. Et si on sort de ce cadre-là, du coup, on devient hors la loi, un outlaw.
C'est ça.
Et on se met en danger de mort.
De torture, de mort. Ouais. On pourrait peut-être maintenant parler de l'écriture, parce que son écriture est aussi très intéressante. Et vous êtes quand même spécialiste un peu de la langue anglaise, enfin un peu beaucoup même, et de l'écriture, puisque vous publiez.
J'essaie de réussir, mais ça j'ai
pas bien. Un beau livre que j'ai beaucoup aimé, donc on pourra en parler à la fin.
Et oui, effectivement, alors c'est un roman qui présente quand même un caractère très singulier. D'abord, il s'appuie sur des bases très classiques, des choses que l'on retrouve de manière très récurrente. C'est le parcours d'une héroïne, une femme, dans un contexte social ou sociétal qui lui est hostile. Ce sont des choses que l'on retrouve de manière très courante, que ce soit en littérature américaine ou en littérature britannique, avec Jane Austen, les sœurs Brontë, Jane Eyre. Et y compris des écrivains masculins, comme je sais que c'était Thomas Hardy, avec Jude, The Obscure. Et un auteur que moi j'aime bien, que j'aime beaucoup, Daniel Defoe, qui n'a pas écrit que des romans, que Robinson, mais qui a aussi écrit des romans sur des parcours de femmes, devant développer des stratégies, se mettre en danger aussi. Et donc c'était comme Moll Flanders et Roxana, par exemple, qui sont deux excellents romans écrits par un homme, mais qui montrent aussi la difficulté pour une femme de survivre dans un contexte qui ne lui est pas favorable. On retrouve ça chez Margaret Atwood.
Après, il y a une spécificité de la narration qui est parce que le monde est assez horrible, le monde qui est raconté est horrible, mais de temps en temps, vous avez parlé de...
Mais là, on arrive au côté plus postmoderne, en fait, beaucoup plus contemporain, et on a une écriture peut-être fragmentée, ou en tout cas,
Vous avez parlé des retours, des espèces de frappes percussives, je vous avais dit, je crois.
Oui, il y a une
où de temps en temps, il y a la lumière, voilà.
Il y a une percussion disruptive, en fait, de réminiscence. C'est vrai que les souvenirs reviennent, mais de manière très frappante, avec ce côté rayon de soleil, en fait. Parce que d'ailleurs, elle-même s'appelle June. Bon, les choses, là, on voit que c'est quand même de la littérature, puisque rien n'est choisi au hasard. Mais à chaque fois qu'elle a une réminiscence du passé, ça se passe en été ou au mois de mai, à minima. Pour ce dont je me souviens, effectivement, à chaque fois, on a cette idée de rayon de soleil, mais qui intervient dans un réel très froid, donc qui lui permet en fait de s'évader. Et en fait, c'est presque un besoin physique. Oui, le souvenir revient. Elle ne choisit pas de repenser au passé. C'est le passé qui en fait qui revient à elle, peut-être pour la soulager du moment présent qui est insoutenable en fait. Et on sent bien que c'est insoutenable.
Et en même temps, ça soulage le lecteur.
Voilà. Et en littérature, c'est vrai que c'est un procédé aussi de ça très classique en fait. Parfois même dans une tragédie. Donc, ça remonte à même Shakespeare. On a du comic relief, le soulagement comique dans le contexte d'une tragédie. On a un petit moment, ou alors un petit sourire, une petite blague. Alors, mais là, par contre, on n'est pas dans le comique, mais on est quand même dans le soulagement. Et c'est la réminiscence qui vient nous soulager. Et en fait, ce dont elle se souvient, c'est juste, voilà, c'est un rire d'enfant, même une petite dispute ou un cri. Mais en fait, c'est un élément de vie, avec un son, une lumière, mais des choses toutes très ordinaires, mais des choses en fait qui sont tellement importantes. Et c'est ça aussi l'éveil des consciences et la vigilance qu'elle nous conseille. C'est attention à bien préserver ces moments-là, en fait.
C'est ça, oui. Pour moi, j'ai vu deux fonctions là-dedans. Il y a un, ça soulage, c'est sûr. Deux, ça contribue à raconter l'histoire, en fait, parce qu'on voit comment on a basculé. Et trois, ce que vous venez de dire, en fait, c'est trois... on peut glisser, on peut toujours glisser d'une démocratie qui a l'air de fonctionner à quelque chose de plus terrible.
Oui, on a un mouvement lent, mais qui s'accélère aussi, effectivement vers la dictature. Et là, il y a un travail sur la langue en anglais, mais de Margaret Atwood qui semble intéressant. Il y a un passage qui m'a marqué en anglais, c'est quand on lit les journaux. En fait, les gens sont en demande d'histoire aussi. Il y a toute une réflexion sur l'information. En fait, les gens sont en demande d'informations sensationnelles, qu'elles soient vraies ou fausses. D'ailleurs, elle le dit, « We were not told about defeats, only about victories. » But who wants bad news? Donc on ne nous parlait dans les journaux que de victoires et jamais de défaites. Mais qui veut des mauvaises nouvelles? Et les gens donc s'intéressent à ces histoires-là tant qu'elles ne les concernent pas. Et elle parle d'elle-même à l'époque quand elle était justement avec son compagnon et sa petite fille. Elle disait « We were the people who were not in the papers. » Nous étions les gens qui n'étions pas dans les journaux.
Ouais, c'est bien dit ça. Ouais.
We lived in the blank white spaces at the edges of the print. En anglais, c'est très maîtrisé.
En français également.
Et donc oui, nous vivions dans ces espaces blancs et vierges, en marge des caractères imprimés. It gave us more freedom. Ça nous donnait davantage de liberté. We lived in the gaps between the stories. Nous vivions, nous, dans les interstices, dans les espaces entre les histoires.
Oui.
Mais c'est une illusion. Et c'est ça, en fait, jusqu'au jour où les histoires deviennent la nôtre. Et là, par contre, ça devient effroyable et de manière très soudaine. Et c'est ce que raconte bien le roman de Margaret Atwood.
C'est un livre qu'il faut lire deux fois, je m'en aperçois là. Je l'ai lu qu'une fois.
Et je pense que c'est quand même très profond, le roman. Et
oui. Ouais. Allons maintenant, puisqu'on est dans le détail, là, on raconte des choses de détail. Peut-être on peut faire un petit focus sur un passage. Alors, vous avez choisi The Masquerade, c'est ça ?
The Masquerade.
Masquerade.
Mais alors, vous voyez, qui aurait un côté un peu plus festif. Ici, on l'appelle. Ça ne me revient plus.
Ouais, enfin, c'est un autre nom.
At Jezebel's, ça se passe en fait dans un endroit qui est un ancien hôtel qui s'appelle Jezebel. Et c'est une soirée masquée, effectivement, qui n'est autorisée que pour les commanders, donc les hauts dignitaires, et aussi les grands commerçants. Parce qu'on nous dit que ce genre de cérémonie, enfin de rencontre ou de soirée, en fait, favorise le commerce.
Oui, les étrangers peuvent y venir.
C'est ça.
Pour la diplomatie.
Oui, pour la diplomatie. Et les femmes ne sont pas conviées. The wives, ouais. Donc les femmes des hauts dignitaires, elles n'ont pas à venir.
Et là, il se trouve que le commander... invite la servante écarlate, donc l'héroïne, pour une raison qui ne me semble pas claire, mais en tout cas à venir à une soirée dans cette espèce de bordel, hein, on peut le dire.
Oui, ben c'est ça. En fait, c'est the club, ils l'appellent un club, ouais. Mais c'est là où normalement, dans une société très, très cadrée, il y a beaucoup d'interdits. Et dans cet endroit-là, en fait, très... de manière très surprenante, très incongrue, tout est autorisé.
Oui.
L'alcool aussi, les cigarettes, les sous-vêtements qui avaient tous été brûlés. Parce qu'il y avait des cérémonies où on brûlait les sous-vêtements un peu trop affriolants.
Ouais, comme on a brûlé des livres.
Et on s'aperçoit qu'il en restait. Mais il en restait, en fait, juste pour certaines catégories de personnes, et des hommes, et notamment les hauts responsables. Et... le commandant, quand il parle à l'héroïne, il nous dit « But, well, officially, it's illegal, but everyone's human after all. Mais en fin de compte, tout le monde est humain. Oui. Et il parle de nature, la nature des hommes. On ne peut pas tricher avec la nature des hommes. Donc là, je traduis directement en français. Ça fait partie, en fait, de la stratégie procréative. It's part of the procreational strategy. Je suis en train de citer. Hein. Je n'invente rien, je ne me permettrai pas. Et donc, en fait, la nature exige de la diversité pour les hommes. Et donc, en fait, avoir des choses trop codifiées ou... Enfin, ils ont besoin d'avoir des femmes différentes. Donc, des femmes qui sont masquées, en fait, qui se maquillent. En fait, ça veut dire qu'on a une diversité de personnes ou de femmes. Un homme ne peut pas se contenter d'une femme. Il lui faut une idée de... Oui. Pluricité ou de diversité.
Et là, dans ce lieu, c'est intéressant aussi, l'héroïne rencontre une ancienne amie. Ouais. Et c'est qui a toujours été un peu plus libre qu'elle, d'ailleurs, et qui, finalement, dit que dans cet endroit-là, on y est peut-être mieux, même si bon, c'est un bordel, donc elle est prostituée. Mais je ne sais plus, elle dit qu'on ne travaille que la nuit.
Après, elle dit surtout, ouais, they prefer it here to the alternatives. Donc en fait, elle préfère encore être ici plutôt ouais. que les alternatives. Puisque ouais. les alternatives, d'ailleurs, c'est plutôt elliptique. Là, on n'a pas trop, c'est plutôt éludé, on n'a pas tous les éléments. On sait que les peaux se défont des visages à cause des produits toxiques. Donc en fait, les gens qui sont envoyés aux colonies, ils finissent très mal, ils ne durent pas longtemps. Et on leur donne peu à manger puisqu'on sait qu'ils ne vont pas durer longtemps. Donc en fait, elle préfère encore être ici. Et ce passage-là, il a une fonction, là pour le coup, encore très classique, c'est qu'on a une succession d'épiphanies, de révélations. Avec Moira, qui était sa meilleure amie, qui effectivement avait des velléités de rébellion, qui était une femme très indépendante, lesbienne. Pour le coup, ça n'est pas, c'est bien loin d'être accepté par Gilead, raison pour laquelle elle se retrouve là d'ailleurs. Mais c'était celle qui était un peu... Elle avait une valeur de modèle ou d'exemple à suivre pour notre héroïne.
Oui, déjà dans la vie précédente, elle est une battante.
Elle va faire quelque chose. Elle va s'en sortir. Elle va me montrer la voie à suivre pour m'en sortir.
Mais ça, c'est un aspect du livre qui est terrible aussi, parce qu'on attend tout le temps qu'il y a une révolution, quelque chose, et ça n'arrive pas vraiment.
Ouais. On espère. Puis à la fin, on ne sait pas. À la toute fin... Ce race noir, même ce race lumineux, on ne sait pas.
Oui.
Parce que je pense que Margaret Atwood ne cherche pas à donner de réponse, elle ne fait que poser des questions.
Et ça fait partie aussi de son écriture. On a l'impression, moi j'ai eu l'impression d'une lampe de poche dans la nuit qui éclaire telle scène, telle autre, et l'autre, telle autre. Et au fur et à mesure, on commence à tout reconstruire, ce qui se passe. Mais avec suffisamment d'obscur pour que ça prolonge l'imaginaire bien plus loin que ce qui est proprement dit. Oui. Bon, on arrive un peu quand même au terme de l'émission, mais avant, ça serait intéressant de... Parce que vous avez choisi ce livre aussi parce qu'il résonne avec l'actualité, donc pourriez-vous peut-être faire un petit point là-dessus, sur quelle actualité résonne cette histoire, enfin, ou pourrait résonner, ou résonne, enfin, résonner, de toute façon, c'est pas... Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça renvoie sans être...
Effectivement, dans le cadre de mes enseignements, notamment auprès des jurys, c'est vrai que je m'intéresse pas mal à ce qui se passe outre-Atlantique notamment, et on a quand même pas mal de...
Oui, c'est bien de faire le lien avec votre enseignement aussi, et la pédagogie, ouais.
Oui, c'est vrai que ce roman-là pourrait être une lecture complémentaire, je pense, par rapport à tout ce qui se fait. Alors sur le temps d'un TD, on va plutôt assez vite sur un... Même si on va étudier un cas juridique plutôt en détail, mais ça ne pourra pas... on n'a pas assez de temps pour faire l'étude d'œuvre complète. Mais en lecture complémentaire, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Enfin, ce roman-là, effectivement, une résonance très très forte. Moi, j'ai par exemple évoqué l'idée de... un cas en 2018 qui est celui de Marsha Jones. Donc, c'était une jeune femme en fait qui a, dans l'état d'Alabama, qui a reçu une balle dans l'estomac et elle était enceinte de 5 mois et elle a perdu donc son fœtus. Qui d'ailleurs, quand on parle de sémantique, chose qui est très bien retranscrite dans le roman de Margaret Atwood, quand on regarde les reportages de manière assez systématique, on parle parfois de fetuses ou embryos, mais souvent les termes qui reviennent, ce sont les termes de unborn babies ou unborn Children et même les district attorneys qui annoncent que les charges vont être annulées, elles reprennent quand même ces termes-là.
Oui, donc, des termes qui sont très connotés, évidemment.
Et donc, cette jeune femme-là, qui a reçu une balle dans l'estomac et qui a perdu son fœtus, c'est elle qui a été mise en accusation pour homicide. Parce qu'elle avait mis en danger, en fait, la vie de son fœtus.
Oui, c'est incroyable.
Et la jeune femme qui lui a tiré dessus, alors qu'elle n'était pas armée. Elle a reçu une balle, elle n'était pas armée. La personne donc qu'elle connaissait, mais c'est parti d'une dispute, mais on a considéré que c'était elle qui avait initié la dispute. C'est la raison pour laquelle elle a été accusée. Et donc la charge, c'était manslaughter. Donc c'est homicide involontaire. Mais du coup, elle encourait quand même de longues, longues, longues années, beaucoup d'années en prison. Ouais. Et la personne qui a tiré n'a absolument pas été inquiétée. Et à ce jour, elle ne l'est toujours pas. Donc elle n'aura pas de problème avec la justice. Les charges ont fini par être abandonnées. Mais ça montre bien aussi l'idée, un processus qui est celui de criminalisation, en fait, de l'avortement.
Oui, clairement.
Et il y a 38 États maintenant.
Enfin, de l'avortement, là, on peut pas. Enfin, un bébé qui a été tué par une balle, bon. Mais surtout, ça change le statut du fœtus ou de l'embryon, y compris quand il a 2 semaines. C'est pas un embryon, c'est qu'il n'est pas né. C'est quelqu'un qui existe, mais qui n'est pas né. Ouais.
Et il y a 38 États maintenant sur 50 qui identifient le fœtus comme étant une victime potentielle d'un homicide ou d'une agression. Donc c'était en ce sens-là. Et on a aussi, dans certains États... C'est là qu'on va venir...
Là, au Texas, il y a eu des événements.
Et dans certains états, donc, le fait aussi de mettre en danger l'embryon, ça peut revêtir pas mal de formes. C'est aussi le fait d'avoir recours à des substances chimiques, chemicals. Oui. Et ça peut être... Mais après, qu'en est-il du tabac? Qu'en est-il de l'alcool?
Oui.
Qu'en est-il de médicaments qu'on aurait pris mais qu'on n'aurait pas dû prendre parce que si on ne parle pas de drogue ou... Voilà. Donc effectivement, ça veut dire que tout de suite, dès qu'un risque est pris ou dès que quelque chose survient, en fait, la mère va tout de suite être incriminée et rendue responsable, en fait, de la perte de son fœtus. Donc on a un mouvement, là, qui rappelle vraiment beaucoup, en fait, ce que l'on peut voir transparaître dans Margaret Atwood.
Oui, la résonance, c'est que ce qui est à l'intérieur du ventre de la femme, l'embryon, n'a rien à voir avec elle, ça ne lui appartient pas, c'est la vie sacrée.
C'est ça. You must be a worthy vessel. Vous devez être un vaisseau de valeur.
Voilà, c'est pas son corps, elle n'est que le vaisseau de cette chose-là. Ouais.
Et elle transporte un être de valeur, et elle n'est considérée que comme cela. Et là, c'est une référence biblique, mais qui est reprise aussi dans le roman de Margaret Atwood. Ouais. Ce qui prime, ce qui prévaut, c'est effectivement l'embryon ou le fœtus, et en fin de compte, la mère passe dans...
Et c'est là la force du roman, sans doute, c'est qu'on peut faire le lien avec des choses qui se passent aujourd'hui. Ouais.
Et oui.
En même temps, oui, c'est ce qui le rend un peu terrible. Peut-être, juste, on va finir là-dessus. Deux, trois mots sur votre livre L'abeille noire, que j'ai lu avec grand plaisir. Je ne sais pas que dire. Bon, c'est un roman d'aventure qui se passe du temps des guerres...
Au XVIIIe siècle.
Oui, XVIIIe siècle, 1750, par là. Ouais.
C'est ça. Donc elle naît en... Oui, c'est ça, 1750, 55.
Alors, quelques mots juste pour donner envie, peut-être, d'aller le voir. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, en tout cas.
Alors, l'idée, c'est un roman initiatique. Donc, c'est une jeune fille qui a 15 ans au début du roman, mais qui a assez vite 17 ans, qui part de la Baie d'Ornenay, puisque... Moi, je suis de là aussi, donc du coup, elle part, mais elle doit fuir son village.
Ça parle de Brest aussi, ouais.
Oui, puis il y a l'idée de la... Voilà, on a aussi un petit rapport avec la condition féminine. À l'époque, ça n'est pas évident. Elle doit fuir son village, donc elle doit s'émanciper très très vite.
Ouais.
Je sais que, comme vous m'en avez parlé, ça paraît un peu curieux qu'elle s'émancipe aussi vite, mais par la force des choses, c'est vrai que de toutes les manières, elle n'a pas le choix. Donc on est parti sur l'idée d'un tempérament assez fort, suffisamment fort pour qu'elle... qu'elle prenne des décisions assez rapidement. Et alors elle se travestit en garçon au départ.
Oui,
tout même.
Sinon, son histoire n'est pas
possible. Procédé classique aussi, gender crossing. Donc en fait, on passe d'un sexe à l'autre. Et là, il s'agit aussi d'une stratégie de survie. Alors après, c'est le roman picaresque, un peu cap et d'épée. Donc c'est on passe d'un endroit à l'autre. De Douarnenez, on va passer à Brest. On va constituer une galerie de personnages. De Brest, on va fuir vers Londres. À chaque fois, il faut fuir. Donc l'équipe se constitue, elle s'étoffe à chaque fois. Mais on va à chaque fois aller un petit peu plus loin. par bateau souvent, parce qu'il y a un côté maritime, moi j'affectionne
et
beaucoup.
Et puis il y a des très belles aventures maritimes, enfin de pirates, etc. Ouais.
C'est ça, et on va jusqu'à Saint-Domingue, donc, qui est l'île d'Haïti aujourd'hui, et elle va faire la rencontre d'un personnage qui a réellement existé, dont on ne connaît pas grand-chose. Nous, moi c'est en m'intéressant à la période en fait, que je suis tombé sur ce personnage-là, François Macandal. Donc ça n'est pas du tout un personnage de fiction.
D'accord.
Il a vraiment existé, donc 40 ans avant Toussaint Louverture. Et là, vraiment, il faut monter une révolte anti-esclavagiste en utilisant surtout notamment le poison qui faisait très peur.
Oui, et donc on va conclure. Oui. C'est, moi, je veux juste dire que c'est un roman, là, en l'occurrence, très optimiste, enfin très presque joyeux même, parce que bon, il y a une femme qui devient très forte et qui se libère. Et il y a des Noirs dans les Caraïbes qui sont pas encore libres, mais la révolution à Haïti, c'est 1803, je crois. Enfin,
c'est ça. Oui.
Et là, on est on est 50 ans avant. On voit la chose arriver.
Mais Toussaint Louverture s'est appuyé sur le souvenir très vif qu'avait laissé François Macandal pour amener l'île à l'indépendance.
D'accord. Eh bien voilà, donc moi je conseille La Servante écarlate, hein, le livre dont on vient de parler pendant toute l'émission, et le livre aussi de Ronan Robert, L'Abeille Noire, qui est disponible à quelle édition ?
Maintenant, alors il a été réédité aux Montagnes Noires, voilà, qui est un éditeur breton.
Montagnes Noires, oui. Merci à Ronan Robert, professeur agrégé d'anglais à l'UBO, directeur du département AES. Dans la prochaine émission du Lab U, nous nous intéresserons aux parcs et aux liens offshore. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur les pages des bibliothèques universitaires de l'UBO. Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Un pas de côté.